Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, l'examen de la situation en Libye par le Conseil de sécurité. L'appel du Niger à une mobilisation régionale contre Boko Haram. Nous entendrons aussi le Burkina Faso sur les défis démocratiques. Il sera également question de réduction des risques de catastrophes. Dans le dossier, nous reviendrons sur l'aide du PAM en Irak. Et puis coup de projecteur sur le Mali après les avancées obtenues à Alger. La situation en Libye était donc sur la table du Conseil de sécurité ce matin. Le Conseil, qui est présidé en mars par la France, a entendu un exposé par vidéoconférence du représentant spécial des Nations Unies dans le pays, Bernardino León, qui, au vu de la dégradation rapide de la situation, a exhorté les leaders politiques à prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouvelles attaques et, ce faisant, respecter les engagements pris en faveur du dialogue national. On l'écoute.
La situation générale sur le terrain se détériore rapidement et la Libye ne peut plus se permettre de laisser s'envenimer la crise politique et les conflits armés qui ont frappé le pays durant une bonne partie de l'an dernier. À moins que les dirigeants de la Libye n'agissent rapidement et de façon décisive, les risques pour l'unité nationale de leur pays et l'intégrité territoriale sont réels et imminents. Aussi difficiles qu'aient été les dernières années pour le pays, le peuple libyen n'a jamais perdu espoir et aspire toujours à voir émerger un État libyen moderne et démocratique, basé sur la primauté du droit et le respect des droits de l'homme. La réunion de demain au Maroc est une occasion importante d'honorer les sacrifices du peuple libyen dans sa quête pour une vie dans la dignité et le respect, et un pays qui protège les intérêts des générations futures.
Le balai diplomatique se poursuit à Genève, en Suisse, avec le segment de haut niveau de la 28e session du Conseil des droits de l'homme. Outre l'Ukraine et les exactions des djihadistes de Daesh au Moyen-Orient, les crimes commis par la secte nigériane Boko Haram continuent de mobiliser la communauté internationale. Après le Cameroun et le Nigeria, le Niger a à son tour plaidé aujourd'hui pour une mobilisation régionale et internationale pour contrer la menace de Boko Haram. Alpha Diallo.
À Genève, les pays du bassin du lac Tchad sont montés en première ligne pour fustiger les crimes de Boko Haram. Après le Nigeria et le Cameroun, c'est au tour du Niger d'alerter le Conseil des droits de l'homme sur les nombreux abus commis par la secte nigériane. Et pour venir à bout de Boko Haram, Niamey plaide pour une meilleure mobilisation de la communauté internationale. Mara Amadou, ministre de la Justice du Niger.
Notre pays a très tôt attiré l'attention de la communauté internationale en vue d'une action conjuguée et vigoureuse qui éviterait à la zone sahélo-saharienne et au bassin du lac Tchad de devenir un sanctuaire pour les groupes terroristes, convaincus que la synergie d'action au niveau de la communauté internationale est plus qu'indispensable pour venir à bout de cette menace. Des appuis multiformes sont donc nécessaires afin que les pays de la zone sahélo-saharienne et du bassin du lac Tchad parviennent à contenir et à repousser le terrorisme.
Le Niger appelle très fortement le Conseil des droits de l'homme à soutenir les initiatives sous-régionales et africaines et à accompagner les efforts des États du bassin du lac Tchad dans leur guerre contre Boko Haram. Alpha Diallo, Genève. Pour la Radio des Nations Unies.
Un Conseil des droits de l'homme qui a entendu de nombreuses interventions, dont celle de Moussa Nebié, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et à la coopération régionale du Burkina Faso. Ce dernier a souligné la nécessité de parvenir à une réconciliation nationale pour pouvoir relever les nombreux défis qui attendent le pays en 2015, notamment les élections présidentielles et législatives.
Au sortir d'une crise comme celle que le Burkina Faso a récemment vécue, une réconciliation est nécessaire entre citoyens pour une meilleure garantie du respect des droits humains. En cela, d'importantes réformes sont programmées et seront conduites par une commission réforme et réconciliation. Cela permettra à toutes les filles et tous les fils du Burkina de se parler, de maintenir le dialogue et de maintenir une cohésion sociale plus forte. 2015 est une année pleine de défis à relever pour le renforcement de la démocratie au Burkina Faso, notamment par l'organisation d'élections présidentielles et législatives libres, transparentes, équitables et crédibles le 11 octobre.
Les pertes économiques dues aux catastrophes atteignent désormais une moyenne de 250 à 300 milliards de dollars chaque année. C'est l'une des conclusions du rapport d'évaluation mondiale sur la réduction des risques de catastrophes 2015, publié par l'UNISDR, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Le rapport appelle à investir dans la prévention des catastrophes et souligne qu'avec 6 milliards de dollars par an, on pourrait éviter des pertes de 360 milliards de dollars sur les 15 prochaines années. Les précisions de Jonathan Fowler, il est chargé d'informations à la stratégie internationale de prévention des catastrophes.
Les éléments sur lesquels les pays doivent investir, c'est notamment pour remettre en place des écosystèmes, assurer que les bâtiments sont renforcés, par exemple, qu'ils peuvent résister à des tremblements de terre, des écoles, notamment des hôpitaux, non seulement pour que les gens puissent aller se réfugier dans un endroit sécurisé, mais aussi que le système de santé continue à fonctionner pour qu'il n'y ait pas d'épidémie après une catastrophe. C'est aussi des programmes d'information pour le public, le renforcement de l'environnement dans le sens, par exemple, qu'il n'y a pas de glissement de terre, des choses comme ça. Il y a beaucoup de solutions qui sont relativement simples à mettre en place, mais ce qu'il faut, c'est la volonté et l'aide pour la capacité de le faire.
Enfin, une nouvelle directive de l'Organisation mondiale de la santé recommande une réduction quotidienne de sucre sous la barre des 10%. Cette mesure devrait s'appliquer aussi bien aux adultes qu'aux enfants. L'OMS estime que cela pourrait réduire de façon considérable les maladies non transmissibles. Les précisions de Tsige Shiferao.
Selon le docteur Francesco Branca, directeur du département nutrition et développement sanitaire, il y a suffisamment de preuves démontrant qu'un apport de sucre libre de moins de 10% contribuerait à une réduction importante de certaines maladies. Cela aiderait notamment à diminuer les risques d'obésité et de problèmes dentaires. La directive ne cible pas les sucres présents dans les produits laitiers, fruits ou légumes. Il s'agit plutôt de sucres invisibles, souvent ajoutés à certains produits manufacturés. C'est le cas du ketchup, dont une cuillère à soupe contient jusqu'à 4 grammes de sucre, soit l'équivalent d'une cuillère à thé. Selon l'OMS, la consommation de sucre varie énormément en fonction de l'âge, de l'environnement et du pays. Cependant, il s'avérerait que la consommation est plus élevée chez les enfants et dans les milieux urbains. L'OMS souhaiterait aller plus loin pour obtenir des résultats. Résultat probant, une réduction de moins de 5% serait idéale pour notamment réduire les risques de diabète, d'obésité infantile et bon nombre de morts prématurées.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Les forces de sécurité irakiennes ont donc lancé lundi une importante offensive pour reprendre la ville de Tikrit. Cette ville, située à 150 km de Bagdad, était tombée l'été dernier aux mains de l'État islamique d'Irak et du Levant. Les combats en cours dans le gouvernorat de Salah al-Din ont provoqué d'importants déplacements de population vers le district de Samara. Et la communauté humanitaire travaille d'arrache-pied pour venir en aide à ces personnes. Elisabeth Birce est porte-parole du PAM, le Programme alimentaire mondial, des propos recueillis par Isabelle.
Il y a de plus en plus de familles qui fuient la violence dans le gouvernorat de Salah ed-Din et notamment dans la région de Samara. Ces familles fuient sans aucune assistance pour le moment et les agences humanitaires, dont le Programme alimentaire mondial, sont en train de travailler 24 heures sur 24 pour essayer d'apporter une assistance aussi bien en eau, en médicaments qu'en nourriture à ces personnes qui sont parties sans rien et qui fuient les combats. Plusieurs convois sont prévus, notamment des convois qui transportent de l'eau potable et également des convois qui transportent de l'aide pour ces familles, pour qu'elles puissent s'abriter. Et le Programme alimentaire mondial, demain, doit envoyer des rations d'urgence qui seront également suivies par des colis familiaux dans les prochaines semaines. Mais nous avons des difficultés dans ce gouvernorat de Salah ed-Din qui est le plus difficile à atteindre et à rejoindre en raison justement des combats, en raison de cette insécurité qui fait que distribuer l'aide alimentaire reste un défi pour les agences humanitaires.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment les agences humanitaires gèrent ce genre de situation très difficile? Quelles sont certaines des mesures mises en place pour faciliter l'acheminement de l'aide?
La situation est très simple dans ce cas-là. Il faut saisir toute fenêtre de sécurité dès que l'on peut trouver un créneau pour distribuer, pour transporter l'aide alimentaire, on le fait. Nous avons ouvert des entrepôts en Irak, notamment à Dirouk, et nous avons là-bas de l'assistance qui est prête à être transportée. Mais avec les conditions d'insécurité qui règnent, les chauffeurs de camions mettent plus de temps. La situation est beaucoup plus difficile. Début février, le Programme alimentaire mondial arrivait à rejoindre 18, c'est-à-dire la totalité des gouvernorats en Irak. Là, actuellement, nous en atteignons régulièrement 17, avec certains avec difficulté, et notamment le plus difficile est celui de Salah ed-Din. Mais il y a bien sûr des défis constants, certains endroits du gouvernorat d'Anbar, Diyala, Kirkouk et Ninive, bien sûr, où nous avons accès de façon sporadique et malheureusement insuffisant. cet accès ne nous permet pas d'apporter de la nourriture régulièrement aux personnes qui sont déplacées. Il faut voir qu'il y a 2 millions de personnes déplacées en Irak, que le PAM en nourrit une moyenne, en aide une moyenne de à peu près 1 million par mois depuis le début des violences à la mi-juin. Nous avons rejoint à peu près 1 800 000 personnes déplacées et nous espérons continuer et atteindre ce rythme régulièrement au cours de 2015. Mais ça reste un défi puisque souvent l'insécurité nous interdit de rejoindre ces populations.
Sait-on combien de personnes ont été déplacées à Samarra ?
Actuellement, nous n'avons pas les chiffres encore. Je pense que nos collègues du Haut Commissariat pour les réfugiés vont bientôt pouvoir nous donner des indications. Pour le moment, ils transportent une assistance pour environ 500 familles, c'est-à-dire aux environs de 25 000 personnes. Le nombre de ces personnes ne fait qu'augmenter et il faut malheureusement s'adapter à cette situation.
Ce dimanche 1er mars, deux des trois parties prenantes au dialogue inclusif intermalien ont paraphé à Alger le projet d'accord de paix et de réconciliation au Mali. Un pas historique vers une paix durable dont s'est félicité la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le pays, qui estime qu'il représente le compromis le plus viable. La coordination de la coalition de l'Azawad attend toutefois de consulter la population pour le paraffer. Les explications de Radia Achouri, elle est porte-parole de la MINUSMA au micro de Christina Silvero.
Cet accord qui a été paraffé par deux parties prenantes dans le processus d'Alger représente un acquis considérable et un historique vers une paix durable et réconciliation durable au Mali. Certes, nous avons bien indiqué que ce n'est pas un accord parfait parce qu'il ne prend pas en considération toutes les demandes qui ont été mises sur la table par toutes les parties prenantes. Et ça, c'est tout à fait dans l'ordre naturel des choses parce qu'aucune partie ne pourrait avoir toutes ces demandes satisfaites parce qu'il faut bien faire des concessions. Cet accord représente un compromis que l'équipe de la médiation a jugé le compromis le plus viable pour qu'il soit accepté par toutes les parties prenantes. L'une des parties prenantes, à savoir la coordination du mouvement de l'Azawad, n'a pas paraffé cet accord.
Alors justement, la coordination de la coalition des parties du Nord n'a pas encore paraffé cet accord. Quelle est l'importance de ce fait ? À quoi vous attendez-vous ?
Écoutez, la coordination du mouvement de l'Azawad n'a pas en effet paraffé. Ils ont par contre fait une déclaration lors de la cérémonie qui s'est tenue le 10 mars, dans laquelle ils ont indiqué qu'ils s'inscrivent toujours dans la logique de la paix. Et ils s'engagent à respecter les accords de cessez-le-feu ainsi que tout ce qui a été agréé préalablement, notamment la déclaration de cessation d'hostilité qui a été conclue par les parties le 6 février à Alger même. Je dis bien le 6 février 2015, dans le cadre du processus de pourparlers. Donc ça, bien entendu, c'est quelque chose de laquelle nous nous réjouissons. Le fait qu'ils aient déclaré qu'ils s'engagent toujours dans la logique de la paix, du dialogue, du respect, de la poursuite d'une solution négociée et acceptable par tout le monde. Ils ont dit qu'ils veulent consulter la population. Nous espérons qu'ils vont conclure cette consultation avec la population concernée le plus tôt possible et qu'ils mettent leur paraphe sur cet accord parce qu'il est très clair, il était apparent et évident que la coordination était très très consciente des retombées d'une décision de leur part de ne pas se joindre au train de la paix qui est déjà en marche.
Donc, ça veut dire ?
Ça veut dire d'abord, ils seront les seuls à ne pas avoir rejoint le train de la paix. Il y aurait peut-être des répercussions sur le terrain en termes de stabilité et peut-être la résolution d'un conflit armé. Et tout ça, ça veut dire beaucoup de choses pour la population qu'eux-mêmes disent vouloir protéger et promouvoir des intérêts. Et le Conseil de sécurité, notamment, a indiqué que toute partie qui ne se joindrait pas à la paix, qui se poserait comme obstacle à la stabilisation du Mali et à la restauration de la paix et de la sécurité, devra faire face aux conséquences possibles, notamment des mesures que le Conseil de sécurité imposerait à toute partie, dans le cadre du chapitre 7, notamment des sanctions, qui lui seraient utiles. Mais nous sommes optimistes en fait que la sagesse prévalera en fin de compte et que la coordination finira par se joindre aux autres parties, car cet accord en définitive, même s'il ne répond pas aux aspirations de toutes les parties, cet accord fournit en fait à toutes les parties prenantes un cadre pour démarrer une entreprise de paix et de réconciliation du durable et prévoit des dispositions pour que toute question que les parties jugeraient nécessaire à régler pour assurer justement cette paix définitive et durable prévoit en fait des dispositions pour les régler d'une manière définitive par tous les Maliens et les Maliens et les parties concernées.
Voilà, et c'est avec Radia Achouri que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.